Et nous prions avant de lire dans les Écritures. Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Une parole vivante, nouvelle. Alors permets qu'à travers notre méditation des Écritures, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que nous puissions recevoir ainsi la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route avec toi et avec nos frères et sœurs. Amen. Hier samedi a été célébré en ce temple le culte de bénédiction d'Antoine Vardon et Fabrice Calais. Ils avaient choisi tous deux un texte de l'évangile de Luc, la parabole du figuier. Et c'est ce qui m'a conduit à vous proposer ce matin un autre récit de figuier, mais cette fois dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 11, les versets 12 à 25. C'est le lendemain du jour où Jésus est entré à Jérusalem. Vous savez, le récit des rameaux avec l'âne et la foule qui agite les branches. Comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en y arrivant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors « Que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivent à Jérusalem. Entrés dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les instruisait et disait « N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ?» Mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Les grands prêtres et les scribes l'entendirent. Ils cherchaient comment le faire disparaître. Ils avaient peur de lui parce que toute la foule était ébahie de son enseignement. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Et le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Jésus leur dit, « Ayez la foi de Dieu. Amen, je vous le dis. Celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos fautes. » Alors, quel rapport y a-t-il donc entre un figuier et le temple de Jérusalem? Puisque Marc a pris la peine d'insérer un récit dans un autre, d'étirer l'épisode avec le figuier sur 24 heures, une journée entière, d'encadrer l'épisode de Jésus au temple par cette étrange parole de Jésus à un arbre, oui, vous avez bien entendu, Jésus parle à un arbre, et puis de l'autre côté, l'étonnement de Pierre qui ouvre un enseignement sur la foi et la prière. Le figuier est un arbre familier du lecteur des Écritures. Dans la Bible hébraïque, souvent associé à la vigne, il est cité dans les oracles, dans de nombreux oracles prophétiques, aussi bien des oracles de destruction et de malheur, où les figuiers sont détruits, que des oracles de paix et de prospérité, où chacun peut s'asseoir en paix sous son figuier. Et les deux, oracles de destruction ou oracles de paix, sont en lien avec la foi du peuple d'Israël en l'Éternel. Le figuier est associé à la terre promise, et en cela, il est un symbole du bonheur promis par Dieu. Et dans le judaïsme du temps de Jésus, le figuier est également un symbole de l'étude des Écritures. Par exemple, dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus voit venir à lui Nathanaël, il dit « Avant même que Philippe ne t'appelât, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël parlait avec Philippe de la loi, justement la loi de Moïse. La loi, les Écritures, à lire, à méditer, pour entendre la parole de Dieu et pour nourrir la relation avec Dieu. Alors quand Jésus a faim et qu'il s'approche du figuier, au-delà du besoin de manger, nous pouvons entendre dans cette faim le désir, l'intérêt pour la parole de Dieu et pour la foi. C'est la même chose lorsque Jésus a soif auprès du puits où vient une femme samaritaine. Il n'a pas seulement soif d'eau fraîche, il a soif d'une rencontre où la vie spirituelle se déploie dans un dialogue en vérité. Mais il n'y a pas de figue sur le figuier, et Jésus reste sur sa faim. Il y a une bonne raison à l'absence de fruits, que Marc prend soin de préciser. Ce n'est pas la saison des figues. Effectivement, si on regarde un peu le calendrier, Jésus est venu à Jérusalem pour la Pâque juive, à peu près au moment de ce que nous appelons, nous, mars ou avril, alors que les figues sont mûres fin août, septembre. Mais bien sûr, Marc ne donne pas un cours de botanique. Et puis ce n'est pas non plus parce que Jésus a nourri une grande foule avec 5 pains et 2 poissons qu'il ferait apparaître des figues si ce n'est pas la saison. Nous sommes, nous, inquiets sur ces questions de saison, n'est-ce pas? Parce qu'elles changent. La saison des vendanges a avancé d'un bon mois depuis une dizaine d'années. Mais ça, c'est la conséquence de l'activité humaine. Ce n'est pas du tout une décision divine. Alors si Jésus s'agace de ne pas trouver de figues alors que ce n'est pas la saison des figues, eh bien ce n'est pas une question de saison ni de végétal. Jésus cherche la foi et ne la trouve pas. Il cherche ce qui nourrit la foi et ne le trouve pas. Et lorsqu'il parle au figuier, ce n'est pas tellement à un arbre qu'il parle, c'est à ce qui devrait favoriser, accompagner, alimenter, approfondir la relation à Dieu de chacun. L'étude des Écritures. Le rapport aux Écritures tel qu'il est réalisé par la majorité de ceux qui lisent à l'époque de Jésus, les pharisiens, les prêtres, les sadducéens, les scribes. Et ce que Jésus constate, c'est que ce travail d'étude des Écritures ne porte pas de fruits capables de rassasier une existence humaine. C'est ce qu'il dit. Ce qu'il révèle, sans aucun ménagement, que plus jamais personne ne puisse manger un fruit de toi. Ce que Jésus voit, malgré les feuilles nombreuses dont l'arbre est couvert, c'est un figuier mort. C'est une lecture et une interprétation des Écritures qui n'indiquent pas un chemin et un horizon pour la vie, mais rétrécissent l'espace. Une lecture, une interprétation qui n'éclaire pas, mais qui obscurcissent, qui ne restaure pas, mais qui accable, qui n'annonce pas la bonne nouvelle du royaume et de la grâce, mais qui joue sur les peurs, les obligations, les condamnations. que plus jamais personne ne puisse manger un fruit de toi. Ce n'est pas une malédiction, comme le pensera Pierre le lendemain matin en voyant le figuier desséché jusqu'aux racines. Ce n'est pas la parole de Jésus qui a fait périr le figuier. Le figuier était déjà mort sous l'apparence de vitalité de ses feuilles. Le dessèchement du figuier n'est pas le fait de Jésus. Mais le lecteur des Écritures le sait aussi, ce n'est pas la première fois que Pierre ne comprend pas bien ce qui se passe, ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait, parce que Pierre pense encore souvent selon une logique qui est celle de la rétribution, qui est une logique rassurante parce qu'elle permet de prévoir ce qui va arriver ou d'expliquer ce qui est arrivé, mais c'est aussi une logique qui fait de Dieu une idole avec laquelle il n'y a plus qu'à compter et à marchander. Alors c'est dans le même souffle de sa parole au figuier que Jésus agit dans le temple. Il faut autant de souffle pour parler que pour agir. Le temple de Jérusalem, ce n'est pas seulement l'un des bâtiments les plus imposants et somptueux de l'époque de Jésus, c'est aussi l'institution qui organise le culte, la relation à Dieu et la vie spirituelle, par les rites, les sacrifices, les fêtes religieuses, tout ce qui donne forme et sens à la foi d'Israël, la foi au Dieu de Jésus, Fils de l'homme, le Christ. La veille, le jour de son entrée à Jérusalem, Jésus est déjà allé au temple et il a tout observé avant de repartir pour passer la nuit à Béthanie. Il a vu les changeurs à leur table qui évitent que des pièces de monnaie frappées à l'effigie d'un empereur ou d'un dieu d'un autre peuple entrent dans les offrandes au temple. Il a vu les vendeurs d'oiseaux et de petits animaux pour les sacrifices obligatoires dans beaucoup de circonstances de l'existence. Il a vu le système religieux établi pour se mettre en règle avec Dieu, une mise en règle qui exclut tous ceux qui ne s'y soumettent pas. Il a vu les moyens instaurés pour répondre à une obsession de pureté qui prend la place d'une relation personnelle et vivante à Dieu. Il a vu que le commerce a remplacé l'élan de l'âme démunie qui appelle le Dieu sauveur. Il a vu que la foi, pour être validée comme foi, doit être fixée sur le temple. Et c'est tout ce que Jésus renverse, avec les tables et les sièges, tout ce système religieux dont il dénonce l'inanité par rapport à Dieu et la cruauté par rapport aux hommes et aux femmes. Le temple, comme le figuier, n'est plus un moyen de se relier à la source de vie et d'amour. Et c'est ce qui arrive lorsque la religion devient une fin en soi, lorsqu'elle capte le temps, l'énergie, pour les replier sur elle-même et y enfermer la foi. Révéler que le figuier est sec, renverser les tables, empêcher le transport, on pourrait tout aussi bien dire le trafic d'objets dans le temple, c'est révéler que ce qui fonde et anime l'être humain selon la logique de la religion est renversé. Et que la condition humaine n'est pas celle d'une course sans fin aux comptes et aux preuves, ni la préoccupation permanente de justifier le simple fait d'être vivant, mais qu'elle est vocation à la communion avec le Dieu créateur et sauveur et avec les autres humains. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de bandits. L'économie du temple obéit aux règles du monde qui se fondent sur lui-même, sur ses propres valeurs, ses propres forces, ses mesures, ses comptes. Mais en Jésus-Christ, les croyants sont appelés à faire signe vers un monde autre, celui que Jésus appelle le règne de Dieu. Le monde du monde n'est pas le seul monde possible. et le règne de Dieu témoignent de cette nouvelle économie, celle de la grâce et de l'accueil inconditionnel. Déjà, les prophètes d'Israël annonçaient avec l'image du figuier la destruction des fausses assurances et des sécurités menteuses. Et non seulement Jésus reprend cette image, mais il va droit au cœur du système, de la logique trompeuse qui fait croire que Dieu a besoin de sacrifices qui finissent toujours par devenir des sacrifices d'humains. Cette logique trompeuse qui fait croire qu'une institution est garante de la vérité de la foi. Alors aujourd'hui, aucune église ne peut se croire à l'abri de ce que Jésus révèle en parole et en acte dans ce récit de Marc. Puisque ce sont les églises qui organisent le culte au Dieu de Jésus-Christ. Alors elles ont besoin de vigilance, de questions et d'interpellations pour ne pas dériver vers l'exercice d'un pouvoir sur leurs membres, voire même au-delà de leurs membres, sur une société entière, dans un esprit quasiment impérial, hégémonique de contrôle de la vie des personnes. Les églises ont besoin de vigilance, de questions et d'interpellations qui peuvent venir de l'intérieur de l'église comme de l'extérieur. Et nous trouvons, pour ce qui nous concerne, dans ce double épisode du figuier et du temple, des indications précieuses. La première, c'est de veiller à la lecture et à l'interprétation des Écritures, non seulement pour en garder la pratique, mais pour que cette pratique ne s'installe pas dans la répétition et le confort, ni dans l'attente paresseuse de réponses déjà formulées. Des feuilles vertes sans fruits. Les Écritures seules, le principe réformateur, garde toute sa justesse et sa pertinence au fil du temps, car c'est bien l'étude de ces témoignages de foi que sont les Écritures qui peut clarifier et accompagner la foi de chacun de nous, aiguiser notre lucidité, approfondir notre compréhension et nos manières de vivre grâce à l'exemple des paroles et des actes de Jésus. Deuxièmement, résister aux logiques du conservatisme, d'exigence de pureté, de marchandage, de sacrifice, pour favoriser ce qui permet à chacun, dans sa singularité, de cheminer et de nourrir sa relation à Dieu, de déployer une spiritualité vivante au travers de ce que l'Église, de ce que les Églises offrent aux personnes, puisque les Églises ne sont pas là pour elles-mêmes, mais pour les personnes, quel que soit leur âge, leur situation, leur origine. Et puis troisièmement, en veillant à ne pas transformer la foi en croyance. Ce dernier point, c'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. Avec ses premiers mots qui sont tout à fait étonnants. Ayez la foi de Dieu. C'est tellement stupéfiant que bien des traducteurs transforment la phrase en un beaucoup plus banal « Ayez foi en Dieu ». Mais Marc ne s'est pas trompé. Ayez foi, une foi de Dieu. Le décentrement est radical. Il n'est plus du tout question de mesurer, d'évaluer, de vérifier la foi de qui que ce soit, ni même la sienne. La foi en nous vient d'au-delà de nous-mêmes. Elle ne vient pas de l'histoire, de la culture, du parcours personnel. Ayez foi de Dieu. La foi de Dieu en nous. L'essentiel, le commencement, le fondement, dit Jésus, c'est cette foi-là. Non pas votre foi, mais la foi de Dieu en vous. Face au figuier qui ne nourrit pas, et à la maison de bandits, Jésus pose avant tout la foi de Dieu en nous, c'est-à-dire un crédit infiniment ouvert dont nous sommes bénéficiaires de la part de Dieu. Et tout commence là. C'est donc qu'il n'y a rien à payer, rien à négocier, rien à rembourser, d'aucune manière que ce soit, rien à faire ni à être par nous-mêmes. Tout ce qui constitue une croyance, selon les logiques humaines. C'est par rapport à ce Dieu qui nous fait infiniment crédit, qui met sa foi en nous, que se déploie la vie vivante des humains, et non par rapport aux logiques humaines, ni bien sûr par rapport aux saisons. En conséquence, la prière est tirée hors de toute tentative de marchandage. Elle échappe à toute tentative de la contrôler. La prière redevient un lieu et un temps libre, lieu et temps d'écoute et de dialogue avec Dieu sans intermédiaire. Et alors du possible et du nouveau peuvent faire irruption, parce que la prière s'appuie sur la foi de Dieu en nous. Et alors du possible devient impossible. Et ce n'est pas bien sûr de faire se déplacer une montagne dans la mer, sauf si la montagne est une image représentant tout ce qui empêche, comme un obstacle imposant, d'avancer dans la vie et dans la foi en conscience et en liberté, de lire les Écritures en conscience et en liberté, de prier en conscience et en liberté. Ça, oui, on peut le jeter à la mer. De même, l'image glisse vers ce qui semble tout aussi impossible, mais qui ne l'est plus, grâce à la foi de Dieu en nous, grâce à cet infini crédit ouvert en notre faveur, et c'est le renouvellement de nos relations. Et ce renouvellement est exprimé par le verbe « pardonner », qui traduit un verbe grec signifiant « laisser libre »,« laisser aller », acquitter. Cette foi de Dieu en nous nous rend capable de ne plus considérer autrui comme un ennemi, ni comme un moyen, ni comme un allié de circonstance, mais comme un compagnon, une compagne sur le chemin. L'altérité devient condition de vie humaine. À quoi répond la vocation à la communion avec Dieu, avec le Christ et les uns avec les autres? Et alors, se multiplient les fruits et la vie sous de diverses formes, de diverses manières, dans un joyeux foisonnement qui scintille de tout l'éclat du mot « bon ». Amen.